Alors Django Reinhardt, qui est né en 1910 et qui est mort en 1953, aujourd'hui a trouvé sa place dans les dictionnaires et les encyclopédies. On le présente en général, sa musique, comme la rencontre de deux traditions. On dit, en Django se rencontre une tradition qui serait musique tzigane, et puis une autre qui serait le jazz. Alors c'est cette formule, la rencontre de deux traditions, la musique tzigane, le jazz, que je voudrais soumettre à examen avec les illustrations musicales ce soir. Alors Django, il n'y a aucun doute, appartient bien à un groupe tzigane, les Manouches, plus exactement les Gatchkene Manouches, ce qui signifie les Manouches germaniques. Si l'on accepte la thèse, il n'y a pas de raison de ne pas l'accepter, puisqu'elle est soutenue par des arguments linguistiques, notamment, et aussi historiques aujourd'hui, de l'origine indienne des Tziganes et de leur migration à partir du Xe siècle ou XIe siècle de notre ère vers l'Occident, les Manouches apparaissent comme une branche de cette migration. Leurs ancêtres appartiennent à ce que les historiens des Tziganes appellent la première vague tzigane, c'est-à-dire les premières bandes, c'est le mot qui est employé dans les textes de l'époque, qui sont apparues en Europe occidentale au XVe siècle. Dès le XVIIe siècle, on trouve mention dans des rapports de police et des documents administratifs de bohémiens ou égyptiens, des termes génériques qui étaient employés là aussi au XVIe ou XVIIe siècle, nommés Reinhardt et qui séjournent des deux côtés du Rhin, en Hesse, côté allemand aujourd'hui, et en Alsace, côté français. Annikel Reinhardt, peut-être un ancêtre de Django, on ne sait pas, on ne peut pas l'établir avec certitude, serait la première célébrité de cette lignée des Reinhardt. C'est un bandit de grand chemin qui, avec ses troupes, terrorise les régions d'Alsace et de Hesse jusqu'en Suisse. Il pille les villages, il attaque les gens sur les routes et il finit pendu sur la place de Sulz en juillet 1787, un village alsacien. Il est resté célèbre parce qu'on dit que c'est lui qui servit de modèle à Schiller, le dramaturge allemand Schiller, pour sa pièce « Les brigands ». Il est certain, par contre, que la famille de Django, ses grands-parents, des deux côtés, du côté de sa mère et du côté de son père, on s'appelle Reinhardt, sont établis à Strasbourg fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Des documents d'état civil l'attestent. Quand Django vient au monde, lui, le 23 janvier 1910, la famille n'est plus établie. Elle court les routes, elle vit dans une roulotte. Et au moment de la naissance de Django, la roulotte s'est arrêtée à Liberchy, un petit village du Brabant, en Belgique, en Pays Wallon, pour y passer l'hiver. Ce n'est pas la première fois, elle passe l'hiver avec d'autres roulottes qui sont arrêtées à un lieu dit la mare aux flaques, c'est-à-dire la mare aux corbeaux. La famille donne des représentations, elle est connue dans ce village, elle y a ses habitudes, et notamment dans l'auberge du maréchal Ferrand, qui est aussi le maire du village, qui s'appelle Adrien Borsin, bon, je le dis parce qu'il sera le parrain de Django, et régulièrement la famille dans cette auberge donne des représentations qui mêlent des tours de magie, des acrobaties, des danses, des scénettes de théâtre et de la musique. À cette époque et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la famille de Django court ainsi les routes de la Belgique à la Côte d'Azur et à l'Italie, avec même en 1915 une excursion à Alger, une photo en témoigne. Elle suit les foires et les saisons et elle se produit dans les villes d'eau ou dans des soirées privées. Il arrive aussi que les membres de la famille pratiquent d'autres activités qui apparaissent plus ou moins compatibles avec la musique, mais en tout cas, c'est avéré aussi. Les hommes soignent et vendent les chevaux. Certains coupent l'osier et fabriquent des paniers, rempaillent les chaises. Les femmes s'en vont faire leur tournée en ville, vendre ses paniers, puis vendre dentelles et rubans au porte-à-porte. Le père de Django, musicien, il joue du violon, de la mandoline, de la guitare, du piano, est aussi accordeur et luthier. Et dans la famille, tout le monde joue d'un instrument, les filles comme les garçons, les enfants comme les adultes. Les sœurs de Django, par exemple, il est le troisième enfant de Django, il a deux sœurs plus vieilles que lui, il est le premier garçon, il y en aura un autre, Joseph, qui sera très proche de lui toute sa vie, tiennent leur place dans l'orchestre familial. Alors, quelle musique jouait cet orchestre? Comment répondre à cette question, évidemment, Django né en 1910. Comment répondre à cette question en l'absence, bien sûr, de tout document sonore? On peut tout de même essayer. Comment? En prenant en considération les souvenirs et les témoignages, pas de Django. Django était quelqu'un de peu loquace et si on mettait bout à bout les interviews que Django a accordées, on arriverait péniblement à 10 minutes, un quart d'heure. Pas Django lui-même, mais certains de ses contemporains, de ses proches, même une de ses sœurs notamment, qu'un admirateur de Django a interrogé après le décès de celui-ci et qui lui a raconté ses souvenirs. Et puis certains documents, non pas sonores, mais visuels, je l'ai signalé, il y a des photos de l'orchestre qui ont été prises. Bon, j'ai signalé cette photo d'Alger, il y a des photos en Belgique, il y a des photos dans la région parisienne. Un autre moyen d'essayer de savoir ce qu'était la musique de cet orchestre familial, c'est de prendre en considération le contexte social dans lequel la famille Reinhardt pratiquait la musique. Ce qu'était le public pour lequel elle jouait, par exemple, qu'est-ce qui pouvait plaire aux clients de l'auberge d'Adrien Borsin à Liberchy dans le Brabant en 1910, et quelles étaient donc les attentes de ce public, et quelles étaient la compétence musicale de ces interprètes. Et ce qu'ils attendaient, eux, ces interprètes, c'est-à-dire la famille Reinhardt, de ces prestations musicales. Quelle était aussi, de manière plus générale, la musique populaire en ces années. Et puis, autre moyen d'essayer de savoir ce que c'était cette musique, en se référant à des formations qui tant par leur composition que par leur pratique, apparaissent semblables à l'orchestre de la famille de Django enfant, et qui, elles, ces formations, ont pu être enregistrées. Il y a de tels documents qui existent, ils sont évidemment beaucoup plus tardifs que les années d'enfance de Django, mais il y a par exemple des musicologues italiens qui ont enregistré des formations manouches dans le sud de la France au début des années 60 et qui étaient des formations qui couraient les routes et gagnaient leur vie en pratiquant la musique. La musique qu'ils interprètent n'est sans doute pas le reflet exact de celle que jouaient leurs aïeux, donc que jouaient les parents de Django et Django avec ses parents, mais tant pour le répertoire que pour le style d'interprétation, elle peut, surtout si les caractères de cette musique concordent avec ce que nous disent les souvenirs des familiers de Django et les documents que nous pouvons retrouver, elle peut en donner une idée. Alors, quelle musique, donc, jouait l'orchestre familial? C'était une musique interprétée d'abord par un orchestre composé presque toujours exclusivement de cordes, d'instruments à cordes, violon, guitare, mandoline, contrebasse. On sait que le père de Django adorait jouer du piano et qu'il avait fait à un moment aménager un piano dont on pouvait plier les pieds de façon à pouvoir le transporter dans une roulotte, comme ça, de ville en ville. Mais c'est quelque chose qui n'a pas duré très longtemps, d'après la sœur de Django qui a laissé son témoignage. Donc une musique faite par un orchestre composé uniquement d'instruments à cordes, qui propose un répertoire d'airs susceptibles de faire danser le public, mais pas seulement. Il y a des succès du Cafconce et des cabarets, des airs d'opérette, des adaptations de morceaux de bravoure classiques, notamment d'ouverture de certains opéras italiens, et puis des pièces, disons, exotiques, perçues comme exotiques par le public de l'époque, mais d'un exotisme composite, puisqu'on y trouve aussi bien des romances napolitaines, des passodobles dits espagnols, mais on est dans l'imagerie, et des xardas hongroises. Musique légère, donc, ce qu'on appelle la musique légère, ou qu'on appelait naguère la musique légère, qui répond aux attentes du public plus qu'expression ethnique. Je reviendrai sur cette formule. Dans la famille du petit Django, en effet, la musique, c'est avant tout un moyen de gagner sa vie, une activité économique parmi d'autres. Est-ce que cela signifie que tout élément ethnique, ou voire tout élément tzigane, en est absent? Il faut là rapprocher la lunette. Élément de tzigane, peut-être pas. Depuis le Troisième Empire, le deuxième, pardon, oui, le Troisième Empire, Napoléon, non, le Deuxième Empire, Napoléon III, monsieur. Troisième Empire, Napoléon II, non, bon, Deuxième Empire, Napoléon III. Il y a eu la vogue des expositions universelles. Et dans les expositions universelles qui se sont tenues à Paris, il y en a eu plusieurs, il y avait des pavillons de la Hongrie, de la Roumanie, et dans ces pavillons de la Hongrie et de la Roumanie, il y avait des musiciens tziganes. Et depuis ces expositions universelles, les musiciens tziganes hongrois notamment ont fait, on dirait aujourd'hui, un tabac auprès du public, et il y a eu une véritable mode, une véritable vogue de la musique tzigane hongroise, avec des cabarets qui se sont voués à cette musique dans toutes les capitales européennes, et ça a fait la fortune des violons, des virtuoses du violon tzigane hongrois. Les musiciens des roulottes n'ont pas ignoré ces mélodies que ces maîtres faisaient retentir sous les lambris et les lustres de cristal. On sait qu'il arrivait au petit Django d'accompagner, alors qu'il avait 10-12 ans, d'accompagner son père dans des soirées privées, dans des hôtels particuliers ou dans des maisons bourgeoises, notamment dans la région parisienne. Et dans ces soirées, Django, qui était un enfant prodige, un enfant virtuose, jouait ses mélodies à la guitare, tandis que son père l'accompagnait au cimbalom. On aurait donc cette figure un peu inattendue d'une musique faite par un orchestre manouche dans lequel il y aurait un élément tzigane, mais qui ne serait pas un élément tzigane originel, mais un élément tzigane emprunté tout simplement parce que c'était la mode à cette époque-là. Mais peut-être au-delà de cette constatation, faut-il interroger cette formule, musique ethnique. Qu'est-ce qu'on appelle une musique ethnique ? Alors, est-ce que c'est une musique lié à la vie d'une communauté particulière, une musique associée, voire réservée, au moment important de cette vie de la communauté, les rituels, par exemple. Si c'est le cas, selon cette définition, la musique de l'orchestre familial Reinhardt n'a rien d'ethnique, je l'ai dit. Avant tout, c'est une activité économique. Si on entend par musique ethnique une musique qui est l'image d'une communauté, on l'entend cette musique et on se dit « Ah, tiens, ça, c'est manouche », qui est donc son emblème, ses membres se reconnaissent en ils la considèrent comme leur bien propre. Apparemment, là encore, une musique d'abord à vocation économique, comme celle que pratique donc cet orchestre familial, ne peut constituer un tel emblème. Mais est-ce si sûr ? Car la musique que produit cet orchestre possède une identité singulière, une identité qui lui vient tout autant des nécessités matérielles que peut-être de fidélité ethnique. Et il est difficile, là, je crois, de faire le partage entre ce qui serait les nécessités matérielles et les fidélités ethniques, hein, ou autrement dit, une tradition. Je fais allusion à la composition exclusivement d'instruments à cordes, un orchestre composé exclusivement d'instruments à cordes. On voit à propos du piano que s'il n'y a pas de piano dans cet orchestre, c'est pour des nécessités, c'est lié à des nécessités matérielles, c'est-à-dire le transport d'un piano quand on vit dans une roulotte tirée par des chevaux et qu'on se déplace de ville en ville. Donc les instruments en cordes, notamment la guitare, on le sait, on le dit, c'est les instruments des musiciens sans bagage, à tout point de vue, sans bagage savant, sans éducation musicale savante, et puis sans bagage tout court, les musiciens qui courent les routes. Alors, est-ce un choix esthétique, ce tout corde ? Je crois que là, les choses sont mêlées. Ce qui est lié peut-être à des nécessités matérielles peut devenir, au fil des années, au fil des répétitions, une espèce d'emblème ethnique. On se reconnaît dans ce qui est une musique faite par un orchestre entièrement composé d'instruments en cordes. Et puis, comme de toute façon, le but de la musique, c'est de gagner de l'argent, donc de plaire au public, il faut que ça soit une musique de qualité. Peu à peu, on cultive la dimension esthétique de cette musique. Et les trois se trouvent mêlés. Les musiciens sont occupés à capter les goûts du public et les différentes modes qui composent l'air du temps. En même temps, ils cultivent certains traits esthétiques dans lesquels ils se reconnaissent. Et peut-être, parmi ces traits esthétiques, y en a-t-il qui sont, pour le public, identifiés comme participants d'un style tzigane. Et l'étiquette s'attache à cette musique-là, et on est devant une musique qui peut être qualifiée de tzigane, alors qu'elle n'est pas l'émanation de ce qu'on entend habituellement par ethnicité ou tradition ethnique, mais tout de même, cet élément-là est présent. On voit donc que, et puis il y a un autre élément qui contribue à l'ethnicisation, si vous voulez, de cette musique à vocation économique, c'est le fait que c'est une musique qui est jouée en famille et quasi exclusivement, et exclusivement en famille. Hein. Enfin, toutes les photos qu'on a de l'orchestre familial Reinhardt, là encore, c'est le témoignage de la sœur de Django qui permet de dire cela. C'est les frères, les enfants, les frères, les sœurs du couple du père et de la mère de Django, de Jean Reinhardt et de Laurence Reinhardt. Leurs cousins, donc neveux et nièces des parents, leurs cousines et puis des cousins de cousins. Mais c'est un groupe assez restreint. Donc cette dimension familiale, évidemment, renforce la dimension qui peut être perçue comme ethnique. On voit donc que le caractère ethnique ou non ethnique d'une musique peut ne pas être quelque chose d'aussi tranché que cela, hein, qui séparerait, on opposerait musique à vocation, musique comme activité économique et musique comme expression ethnique. C'est assez difficile de faire cette part des choses. Ce caractère ethnique peut être acquis plutôt qu'original, et il n'est pas inconcevable du tout qu'il se développe dans une musique qui est faite pour se vendre, et il peut tenir autant à la manière dont la musique est faite qu'au contenu même de cette musique, c'est-à-dire ce qu'elle est quand on l'entend. Mais le caractère ethnique ou non ethnique de la musique de Django n'est évidemment pas ce qui retient ses contemporains, qui vont faire de lui une vedette très tôt, dès que la famille, après la Première Guerre mondiale, en 1918, arrête la roulotte dans ce qu'on appelle la zone ou les fortifs à la porte de Choisy et la porte d'Ivry, à Paris. À cette époque-là, il y a un genre qui commence à faire fureur dans ces quartiers populaires, c'est le musette. Et très rapidement, le jeune Django, il a 12 ans, 13 ans, c'est donc un enfant virtuose, mais il échappera au personnage de l'enfant prodige. Hein. On ne le montrera pas comme une petite merveille. C'est ses qualités de professionnel qui vont être reconnues, et très rapidement, il va être demandé par les plus renommés de ces musiciens du musette. Il a pas 14 ans, un petit peu moins de 14 ans, quand il est engagé par un accordéoniste célèbre à cette époque-là, qui s'appelle Guérineau, et qui est une des gloires parisiennes du musette. Et il se produit dans un bal qui se trouve rue Monge, le bal de la rue Monge, qui est fameux, et il engage Django. Et à partir de là, Django, sa renommée va grandir dans le milieu des musiciens professionnels. Sa réputation ne va pas cesser de gonfler, et peu à peu il est amené à pratiquer tous les genres de la musique populaire qui sont en vogue à cette époque-là. Le musette, donc, il joue dans les bals les plus renommés, mais les bals, on peut reprendre le cliché des bals mal famés aussi, des bals de banlieue. Il joue dans les cabarets russes avec la musique tzigane russe ou hongroise qui est également en vogue. Il accompagne les chanteuses réalistes, il accompagne les chanteurs de charme, il brille dans les orchestres qui font danser dans les endroits les plus huppés, les galas dans les grands casinos, les thés dansants dans les hôtels des grands boulevards ou des Champs-Élysées. Il existe quelques enregistrements de ces années-là, entre des années 20 jusqu'en 1928. Vous verrez pourquoi 28 fait une borne dans la biographie de Django, qui font entendre Django qui accompagne donc ses chanteurs de charme, ses chanteuses réalistes, ses accordéonistes. Quand on réécoute aujourd'hui ces documents, on se demande comment les Pierre Laure, Germaine Sablon, Yvonne Louis, Aimé Simon Girard, Léo Monosson, Nan Cholet, Nitaret, voyez des noms bien oubliés, ont accepté que cette espèce d'extraterrestre soit leur accompagnateur. Accompagnateur entre guillemets, parce que en même temps qu'il accompagne, c'est vrai, il fait le travail pour lequel il a sans doute été payé, Django s'empare de tout l'espace, de toute la musique. Une introduction, un break, un coup de patte derrière le chanteur, un petit contre-champ dans le lointain, une note ici ou là, et d'un seul coup, on a changé d'univers. Tout l'environnement musical est transfiguré. Et on n'écoute plus le chanteur, on n'écoute que ce guitare, que cette guitare, et on se dit, mais d'où est-ce qu'il tombe, de quelle planète est-il débarqué, hein. Cette même impression, cette impression qu'avec Django, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, j'ai mis la phrase entre guillemets, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est ce que disent tous ceux qui l'ont côtoyé à cette époque-là. C'est ce que diront aussi les amateurs de jazz, les critiques, les musiciens, et durablement. Hein. Je pourrais multiplier les citations qui tous disent, mais il faisait une musique, on ne sait pas d'où ça venait. Hein. Et bien entendu, s'il faut nommer cet ailleurs, c'est vers l'horizon de Tsigane, encore une fois, que se tournent ceux qui emploient cette appréciation à l'égard de la musique Django, de Django. Ailleurs, ce serait donc la vie qu'a connue Django avant d'accéder à la célébrité, la vie qu'il connaît peut-être encore lorsque les feux de la scène s'éteignent et qu'il regagne la roulotte dans laquelle il continue à habiter, la vie donc des campements, la vie sur les routes, la vie du voyage. Autrement dit, c'est toute une série de clichés que que les contemporains de Django, ses admirateurs d'aujourd'hui aussi, que nous accrochons et que nous associons à ces termes, tzigane, roulotte, voyage. Comment est-ce que nous en venons à associer certains traits musicaux à des images, images donc d'un mode de vie, un mode de vie réel ou fantasmé, et partant à une certaine communauté, celle dont, imaginons-nous, les membres illustrent ce mode de vie, à cette question, il est possible, je crois, de donner une réponse. Si nous associons ces images à cette musique, c'est parce que de manière récurrente, des membres de cette communauté, des tziganes en l'occurrence donc, lorsqu'ils font de la musique, font une musique qui présente ces caractères en question que nous associons à ces images. L'exubérance rythmique, l'expressivité sonore avec une culture, on pourrait dire, des chromatismes, des notes vibrées et donc des effets de sentimentalité dans la musique et une virtuosité démonstrative. C'est vrai qu'on trouve tout ça chez le jeune Django. La répétition finit par produire son effet. À force d'associer appartenance tzigane et ses caractères musicaux, dès que la musique retentit et qu'on entend ses caractères, les images associées aux roulottes, aux mots gitans, tziganes, etc., surgissent. Et l'association devient si automatique, si naturelle, on pourrait dire, qu'on ne sait plus ce qui est premier, la musique ou les images. Est-ce que c'est la musique qui déclenche l'apparition de ces images dans notre esprit, ou est-ce que ce sont ces images qui font entendre la musique d'une certaine façon ? Point n'est besoin de connaître la réalité de la vie manouche, la réalité donc de la vie de cette communauté à laquelle appartient Django, ou tout simplement la réalité de la vie de Django avant sa gloire, pour que cette association s'opère. Peut-être même vaut-il mieux ne pas la connaître. C'est avant tout les clichés qui la déclenchent. Et force est bien de reconnaître qu'à toutes les époques, c'est à travers ces clichés qu'on a entendu Django. Et que ça n'a pas empêché de l'entendre, ça n'a pas empêché de reconnaître son génie, son talent, enfin, ça n'a pas empêché de l'accéder à la notoriété. Et ça s'est passé à toutes les époques. Et ça se passe aujourd'hui, comme ça se passait dans les années 30 au début. Mais cet ailleurs aussi, qui vient avec la musique de Django, cet ailleurs donc, dont on suppose que Django vient, ce peut être aussi, imagine-t-on, plus précisément, les impressions que Django aurait gardées de l'enfance, de cette vie dans le monde des roulottes, de toutes ces années passées à courir les routes avec l'orchestre de son père. Nous entendons alors la différence musicale, c'est-à-dire la singularité d'un individu musicien, de Django en l'occurrence, comme une émanation de sa singularité, de son expérience biographique singulière. La question qui se pose maintenant, c'est plus comment, ce que je disais tout à l'heure, se fait le lien entre ces images et la musique, mais comment les émotions et les sentiments que ressent un individu peuvent-ils s'imprimer en lui et ressortir un jour dans la musique qu'il joue ? à supposer que cette question soit pertinente, je crois qu'elle l'est, ni l'ethnologie, ni l'ethnomusicologie ne peuvent lui apporter une réponse. Hein, ça, voilà, j'aime bien les questions qui restent sans réponse. Il existe des travaux qui ont essayé de jeter un pont entre la musique et la psychologie. Ça serait un autre thème de débat. Ils sont, à mon avis, ces travaux peu convaincants, et en tout cas, leurs résultats sont souvent contradictoires. Mais de poser cette question, tout de même, ça nous a fait avancer dans l'examen de cette formule qui définit aujourd'hui la musique de Django Reinhardt, c'est-à-dire cette rencontre à deux traditions. La différence dans la musique de Django, elle ne serait pas l'illustration d'une tradition, qui serait la tradition d'une communauté. Nous avons vu qu'il fallait bien nuancer cette appréciation pour la musique essentiellement à vocation économique que faisait l'orchestre familial, mais elle serait l'expression d'une sensibilité individuelle nourrie, cette sensibilité, d'une expérience de vie au sein d'une communauté particulière. Alors il ne s'agit donc pas d'une rencontre entre deux traditions, mais entre un individu, une sensibilité, Django Reinhardt, et une tradition, le jazz. Alors, on va s'intéresser maintenant à ce deuxième personnage de la rencontre, le jazz. Alors, le jazz au milieu des années 30, une tradition ? Certainement pas au premier des deux sens que nous avons donné en posant la question à propos de l'orchestre familial des Reinhardt, hein, c'est-à-dire musique liée à la vie d'une communauté particulière, associée au moment important de cette vie, au rituel, par exemple. De ce point de vue, le gospel et le blues peuvent être ou ont pu être regardés comme des traditions. Le gospel plus que le blues, car il apparaît immédiatement comme une expression collective, alors que la dimension collective du blues n'apparaît qu'avec l'addition d'expressions qui se donnent d'abord comme celle d'un individu, un homme ou une femme. Mais pas le jazz. Le jazz, dès qu'il apparaît, appartient à l'univers du show, du spectacle, et à l'univers du business. Hein. Il est lui aussi, dès la Nouvelle-Orléans, dès les années 20, une musique qui se vend. Au deuxième des sens de tradition que nous avions retenu, alors, une musique qui est l'image d'une communauté et qui est aussi son emblème, ses membres se reconnaissant en elle et considérant qu'elle est leur bien propre. Là, je pose une question qui n'a pas cessé d'agiter et de faire débat tout au long de l'histoire du jazz. Aujourd'hui encore, le jazz est-il la musique des Afro-Américains exclusivement ? Le jazz, en effet, est une musique noire, ça, il n'y a pas de doute, mais une musique noire qui, dès qu'elle apparaît sur la scène, n'appartient déjà plus aux noirs. Le jazz naît dans la ville, et pas n'importe quelle ville, à la Nouvelle-Orléans, qui est, on le sait, un haut lieu de côtoiement et de brassage de populations des origines les plus diverses. C'est comme ça, hein. Les descendants d'esclaves, descendants d'Africains déportés en Amérique du Nord, ont offert à tout le monde la chance de pouvoir se noircir, et tout le monde en a profité. À la Nouvelle-Orléans d'abord, et puis à New York ensuite, et puis à Chicago, et puis dans tous les États-Unis, et puis aujourd'hui dans le monde entier. Hein, partout. Partout, sur la terre entière, Django Reinhardt n'est certainement pas le seul musicien, ni le premier, ni le dernier, qui ne soit pas afro-américain, qui ne soit pas né aux États-Unis, dont la famille n'ait aucune origine, aucun lien avec l'Afrique, et qui trouve son épanouissement pourtant dans le jazz. On peut regarder cette ouverture du jazz comme un risque permanent de dépossession pour ses inventeurs, et périodiquement au cours de l'histoire du jazz, des musiciens afro-américains voudront affirmer ou réaffirmer que le jazz est leur bien propre. On peut aussi la regarder comme une possibilité constante d'enrichissement. Il est très difficile aujourd'hui de nier l'apport de créateurs blancs à cette musique, à l'histoire du jazz. S'il fallait définir le jazz comme une tradition, au sens d'emblème d'une communauté, la difficulté d'ailleurs ne serait peut-être pas tellement de tracer les contours de la musique, puisque le jazz, surtout en chacune de ses grandes voix, est une musique qui possède une identité forte, que de tracer les contours de la communauté. Et si on veut à tout prix me faire dire que la musique de jazz est la musique d'une communauté, la seule proposition qui me semble tenable, c'est de dire que le jazz est la musique de la communauté des musiciens de jazz. Et dans cette communauté, il y a des Noirs, il y a des Blancs, et aujourd'hui il y a des Américains, il y a des non-Américains. On le voit, on est loin de la définition d'une tradition. Et ce n'est pas l'évolution historique, évolution d'ailleurs d'une telle ampleur qu'elle apparaît inconcevable pour ce qu'on appelle une musique traditionnelle. qui a rendu tel le jazz, au contraire. Hein, son évolution l'a éloigné de cette définition en tant que tradition. C'est en sa genèse même, hein, c'est-à-dire une confrontation entre un patrimoine blanc, que ce soit celui des chants d'église ou celui des fanfares ou celui des songs des comédies musicales et des interprètes noirs, puis entre une invention noire et des adeptes blancs, que le jazz s'affirme de manière constante au cours de son histoire comme un lieu d'échange. Alors, le pôle tradition, qui, on le voit, s'était bien effrité du côté manouche, la tradition tzigane, entre guillemets, bah, le voici, qui, je ne veux pas dire qui s'écroule, mais qui se trouve bien effrité aussi du côté du jazz. Donc, les deux traditions qui se rencontrent, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il convient de considérer. Affirmer donc que pour le musicien qui était Django au début des années 30, prodige sans éducation musicale, virtuose analphabète, le jazz apparaît comme une providence, ça semble irréfutable. Mais il est des exégètes qui vont plus loin encore et qui nous expliquent qu'avec Django, les amateurs de jazz français, voire européens, auraient inventé une sorte singulière de nègre, leur nègre à eux. Un nègre qui leur aurait permis d'être sur un pied d'égalité avec les créateurs de couleurs américains. Django a ça dans le sang. Django est un musicien d'instinct. Django est resté toute sa vie un grand enfant. Django possède une aristocratie naturelle. Django invente des choses qui le dépassent. Django sait tout sans avoir jamais rien appris. Django a du génie qu'il dilapide. Et pour finir, le bilan dressé par un docteur renommé au moment du décès de Django, son défaut d'éducation musicale l'aura empêché d'aller jusqu'au bout de ses dons. Le même discours, exactement, voyez, pour Django le gitan et pour les Noirs descendants d'esclaves. Ils ont ça dans le sang, c'est quelque chose qui les dépasse, leur création, l'égal des plus grandes créations artistiques. Ils l'inventent sans rendre compte. Toutes ces propositions concernant donc la rationalisation, l'explication de la rencontre de Django et du jazz, elles ont leur pertinence, mais toutes aussi, c'est inévitable, évidemment, c'est le propre d'une explication. Elles ont le défaut de venir a posteriori. Elles se font plus savantes que l'événement. Et surtout, elles ne rendent pas compte, justement, de cela, du fait que cette rencontre, cela a été un événement. C'est-à-dire quelque chose qui est arrivé et qui aurait pu ne pas arriver. Bon, peut-être, il y a des exemples de musiciens d'origine tzigane qui ont choisi le jazz comme expression. Ils se sont conformés au canon du jazz à l'époque où ils l'adoptaient. Mais ils n'ont pas créé cette chose unique qu'est la musique de Django Reinhardt. Cette collision de deux trajectoires, et de cette collision donc jaillit une étincelle, une illumination, un flamboiement, cette musique qui était proprement imprévisible. Il y a deux versions de la rencontre de Django et du jazz. Elles sont toutes les deux vraies. Il y en a une qui est vraisemblable, et il y en a une qui est plus légendaire, mais elles sont toutes les deux véridiques. La vraisemblable, c'est ce qu'il s'agit de savoir, c'est celle qui rend le mieux compte de la musique, telle qu'on peut l'entendre. La vraisemblable, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce que j'ai raconté en matière de biographie. Django mêlé aux musiciens professionnels de la variété française, qui peu à peu, avec eux, au milieu d'eux, s'approche du jazz et s'ouvre avec eux les portes du jazz. Oui, c'est sans doute comme ça que les choses se sont passées, d'autant que à cette époque, il n'y avait pas la diffusion qu'on connaît aujourd'hui à travers les radios, tous les médias, les disques notamment. La façon de connaître la musique qui venait d'ailleurs, c'était d'écouter les musiciens qui amenaient cette musique. Et les premiers orchestres qui sont venus présenter du jazz, ou ce qu'on appelait à l'époque du jazz, dans les années 20 et au début des années 30 en France, c'était surtout des orchestres de revue. Donc ils présentaient ce qu'on appellerait aujourd'hui un jazz un peu édulcoré, certains emploient l'expression jazz de scène, un jazz de revue. Donc, hein, et c'est ensuite que le jazz qui nous apparaît comme le jazz véritable aujourd'hui, les musiciens comme Armstrong, tout ça, ont été connus à travers leurs enregistrements et puis les tournées qu'ils ont fait en Europe, mais ça à partir de après 1935-36. Le deuxième récit de la découverte du jazz de Django, c'est le récit d'un coup de foudre. Django, alors qu'il est déjà quelqu'un de célèbre, a un terrible accident en novembre 1928. Il a été auditionné par un chef d'orchestre anglais, Jack Hilton, qui était une célébrité de l'époque. Ce chef d'orchestre, jouant donc ce qu'on appelait du jazz, mais aujourd'hui on n'appellerait pas ça, je crois, du jazz, cette musique de revue, de danse mondaine, avait le projet d'engager Django parce que sa renommée était arrivée jusqu'à lui. Il était venu à Paris l'entendre, je ne sais pas si les négociations ont abouti ou pas, et Django rentre ensuite chez lui, c'est la veille de la Toussaint. Il habite toujours dans la roulotte à la porte d'Ivry. Dans la roulotte, il y a plein de couronnes mortuaires en pour porter sur les tombes le lendemain, et c'est des fleurs en celluloïde. Django, pour ne pas réveiller sa jeune épouse, allume une chandelle. La chandelle tombe sur les couronnes de fleurs en celluloïde et en quelques minutes, la roulotte devient un véritable brasier. Sa femme réussit à sortir de la roulotte. Django lui prend une couverture pour se protéger des flammes, puis la fumée l'étouffe, il tombe. Heureusement, les autres occupants des roulottes se précipitent et le sortent. Et il est très grièvement blessé, tout son côté droit est brûlé et la main gauche qui tenait la couverture avec laquelle il a voulu se protéger. Sa famille l'emmène à l'hôpital de la Riboisière. Et là, le chirurgien dit qu'il faut l'amputer d'une jambe. Django refuse. Et à partir de là, commence un véritable calvaire pour retrouver notamment l'usage de sa main gauche, qui est la main qui fait les notes sur le manche de la guitare. Et il lui restera, pendant 18 mois, Django n'arrête pas de faire des allers-retours entre hôpital, clinique, roulotte chez lui. Et puis il faut qu'il retourne parce qu'il y a des dangers de gangrène. Et il a deux doigts. L'annulaire et l'auriculaire de la main gauche qui resteront paralysés. Donc il pourra plus les remuer. Hein. Il faudra donc. Et il retrouve l'usage de sa main gauche en jouant de la guitare. Il se fait apporter par son frère une guitare à l'hôpital. Il joue couché en posant la guitare sur son ventre. Et il va se réinventer, ce qui montre que la musique pour lui c'était autre chose quand même qu'un moyen de gagner sa vie, même, ou un moyen de gagner, d'avoir la célébrité. Autre chose que. C'était vraiment quelque chose de très important. Tous les témoins disent qu'il a terriblement souffert pour retrouver l'usage de sa jambe. Il a été pendant très longtemps dans un fauteuil roulant et l'usage de sa main. Mais tout de même, deux ans après, en 1931, à nouveau, il reprend, comme avant la célébrité, la vie sur les routes et on le retrouve sur la Côte d'Azur avec son frère, sa jeune épouse et sa mère. Et ils font la manche aux terrasses, ils vont de ville en ville, parfois ils jouent dans un orchestre, dans un casino, dans un bal. Bon. Et puis un jour à Toulon, à la terrasse d'un café, le Café des Lions, il joue avec son frère et il y a un monsieur qui s'appelle Émile Savitri, qui est peintre, sculpteur, photographe, artiste, mondain, très fortuné, qui entend ses guitaristes et qui dit « c'est quand même étonnant cette musique ». Et il les invite chez lui et il leur fait entendre Louis Armstrong, Duke Ellington, Joe Venuti, des disques qu'il a. Et jamais avant, Django et son frère n'avaient entendu ces interprètes-là. Et Charles Delaunay, qui rapporte la scène, d'après le témoignage de Savitri, dit « Django se met à pleurer ». Se prend la tête dans les mains et pendant trois jours, il ne va plus quitter la chambre de Savitri. Il fait venir son épouse, il fait venir sa mère, il s'installe avec sa famille dans cette chambre et il passe les disques d'Armstrong, de Joe Venuti, de Duke Ellington, sans arrêt. Et alors, bon, on dit ça, c'est la légende, hein, et c'est pas ça qui, d'un seul coup, l'a transformé. Il y a d'abord cette histoire d'incendie, de blessure, de résurrection. C'est pas un phénix, Django, quand même. Hein. Eh bien, si. Parce que si on prend la discographie, c'est-à-dire la liste des enregistrements de Django, on a ces témoignages que j'ai évoqués tout à l'heure, où Django tricote, dirons-nous, derrière les accordéonistes ou derrière les chanteurs, et puis on a un trou, évidemment, qui correspond au moment de la blessure. Et on a un enregistrement avec l'orchestre du Lido de Toulon, durant l'été 1931. Et on entend un guitariste virtuose, mais c'est pas Django, c'est un guitariste virtuose. C'est bien Django Reinhardt qui joue, mais c'est pas celui qu'on a entendu là. C'est pas. Et pourtant, c'est après la brûlure, c'est après la rééducation. Mais c'est sans doute avant cette espèce d'illumination qu'il a chez Savitri en entendant Armstrong et Ellington. Il a toujours eu besoin d'un noyau de proches autour de lui pour se réaliser. Le quintet du Club de France, le premier quintet, celui qui dure de 1935 à 1939, celui qu'on vient d'entendre, apparaît comme un cocon, véritablement, pour Django. C'est la formation, d'ailleurs, qui le conduit à la gloire. C'est une formation qui est composée uniquement d'instruments à cordes. On vient de l'entendre. Il y a un violon, c'est Stéphane Grappelli. Il y a une guitare soliste, c'est Django. Il y a deux guitares d'accompagnement qui ne font que ça, que l'accompagnement. Et puis, il y a une contrebasse. Et la formule ne change jamais. Hein. Elle ne varie pas. Le personnel peut varier, mais la formule, elle, ne varie pas. Or, vous voyez tout de suite qu'on est dans un cas de figure qui rappelle très fortement l'orchestre familial. Donc, ce quintet du Hot Club de France, première mouture, à la fois garde Django dans un berceau familial, peut-être pourrait-on dire berceau manouche, et en même temps garantit l'élan vers le jazz. On pourra dire, d'une certaine manière, concilie ce qui pour Django pouvait être l'attachement au passé, l'enfance, et l'élan vers la nouveauté, la sécurité et l'aventure. Le berceau familial, donc je l'ai dit, c'est le tout-corde. Une chose qui a été assez peu remarquée par les commentateurs de jazz, c'est que dans ce quintet du Hot Club de France, je l'ai dit, le personnel qui change, c'est le bassiste, mais c'est toujours un musicien français, donc le violoniste, c'est toujours Stéphane Grappelli, c'est les guitares d'accompagnement. Et ces guitares d'accompagnement, entre 35 et 39, elles sont tenues par quatre guitaristes qui sont le propre frère de Django, le propre frère de Django, Joseph dit Nana Reynard, un de ses cousins, Eugène Ninin Weiss, quelqu'un qui est manouche et aussi gitan catalan, qui est de la famille Ferré, qui est Pierre Barreau Ferré, et puis Roger Chaput, qui est un Français originaire de la Côte d'Azur, ou Marcel Bianchi, très épisodiquement. Or, quand les accompagnateurs sont le frère de Django et Barreau Ferré ou Ninin Weiss, eh bien, le quintet du Club de France, c'est une formation qui est en majorité composée de manouches. Hein, il y a trois manouches et deux gadjé. Ce qui fait que Django, là, se sent véritablement dans son berceau. Ce qui garantit l'élan vers le jazz, eh bien, c'est Stéphane Grappelli. Stéphane Grappelli, qui a été, tout le monde le sait, le compagnon privilégié de Django. Bon, il y a place à l'anecdote. C'est vrai que dans la vie, ils avaient beaucoup de mal à se supporter l'un l'autre. Mais dans la musique, il n'y a aucun doute, ils s'aiment. Hein, et ils se sentent très bien ensemble. Or, Grappelli, c'est quelqu'un à qui il arrive quasiment la même chose que Django. C'est-à-dire quelqu'un qui trouve son accomplissement dans le jazz et uniquement dans le jazz. Avant la formation du quintet du Club de France avec Django, Grappelli, c'était un type connu, un musicien estimé, mais on l'appelait pour participer à des séances, et quand il arrivait, on ne savait pas s'il tiendrait le piano ou le violon. Et il était peut-être même plus souvent convoqué pour ses talents de pianiste, d'accompagnateur, que de violoniste. Quand on avait besoin de quelqu'un qui fasse un solo de violon dans un orchestre, c'était plutôt à Michel Varlop qu'on demandait, plutôt qu'à Grappelli. Or, Grappelli, et on le verra ensuite, bon, il aura une carrière bien au-delà de sa collaboration avec Django, à chaque fois qu'on le confronte à d'autres violonistes, les qualités de Grappelli sont uniquement des qualités de musicien de jazz. Et je crois que c'est en grande partie pour cela que Django a été si fidèle et si attaché à Grappelli, parce que d'une certaine manière, Grappelli garantissait l'élan vers le jazz. Donc on a les deux options qui peuvent apparaître contradictoires, qui sont conciliées, et on a aussi deux autres options qui sont conciliées dans le quintet du Hot Club de France et qui fait de ce quintet un véritable cocon pour Django. C'est, par rapport au jazz des années 30, une formation qui affiche une parfaite conformité et aussi une totale originalité. Parfaite conformité, ben, c'est justement cette manière dont le rythme est marqué, ce qu'on appelle la pompe. C'est-à-dire, bon, dans le jazz des années 30, la manière de marquer le rythme, c'est bien celle-ci, c'est faire la pompe. C'est-à-dire, c'est ce qu'on entend chez Fats Waller, c'est ce qu'on entend dans les big bands de Kansas City, c'est ce qu'on entend dans les séances que Lionel Hampton organise pour la firme RCA tout au long des années 30. Le modèle de cette manière d'accompagner, c'est le jeu des pianistes qu'on appelle les pianistes stride, qui fait alterner les basses sur le premier et le troisième temps et les accords sur le deuxième et le quatrième temps. Comme à la guitare, au contraire du piano, on n'a pas les deux mains qui peuvent alterner. Faire la pompe pour les guitaristes, ça consiste tout simplement à marquer d'un accord chaque temps de la mesure. Donc, dans la formation qui voit Django éclore en musicien de jazz, le rythme n'est pas marqué par ce qu'on appelle dans le jazz une section rythmique, piano, contrebasse, batterie et éventuellement guitare, mais est marqué par deux guitares et une contrebasse. là encore, ce qui fait l'originalité de Django par rapport au jazz de l'époque, c'est ce qui lui vient de l'enfance. C'est la manière dont le rythme, on suppose, était marqué dans l'orchestre familial. Donc, vous voyez, à la fois conformité et originalité. Et puis, au-delà du quintet, c'est tout le milieu du jazz français, tous ces musiciens avec lesquels Django est venu au jazz et qu'il retrouvera tout au long de sa carrière, ou au moins jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui apparaît comme un espèce de cocon pour Django. C'est le jazz en France, pas le jazz français, le jazz en France, parce qu'il y a aussi des musiciens américains qui font la scène du jazz en France en ces années-là, est une province dont Django est le roi. Il n'y a pas une séance qui se fait sans lui. On le convoque pour ses qualités d'accompagnateur, et c'est vrai que quand on écoute, par exemple, avec Coleman Hawkins ou avec Benny Carter, on se dit qu'il n'y a pas un batteur en Europe qui a le drive, la manière de pousser le soliste qu'a Django dans ses enregistrements. Les grands solistes américains qui passent en tournée en France, on en a eu un exemple tout à l'heure, viennent jouer avec Django. Parfois, un enregistrement rend témoignage de ces rencontres. Parfois, ça reste simplement dans les souvenirs des participants. Ils ont fait le bœuf ensemble dans une boîte ou à la fin d'un concert. Et puis Django a toujours autour de lui son épouse Nagin, Manouche, et son frère Nana qui sont constamment présents. La seule fois où Django courra seul une aventure, c'est une tournée aux États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946-1947, et ce sera pour lui, en tout cas, ce sera commercialement une réussite, mais musicalement et aux yeux de Django, ce sera un échec. Donc on se demande, vous voyez, si cette personnalité apparemment si singulière a toujours eu besoin de quelqu'un près de lui pour se réaliser. Alors, on pourrait aussi, et on peut terminer sur cette évocation de la fin de la vie de Django, qui pose, en d'autres termes, cette question constante, finalement, ça a été la question qui a couru tout au long de l'exposé, celle du rapport entre la musique que quelqu'un invente et la vie qu'il mène, ou la vie qu'il a menée dans la période qui a précédé sa création musicale. Parce que, bon, on s'est attardé sur le rapport entre les premiers enregistrements de Django et la vie de l'orchestre familial sur les routes. Au moment où Django adhère véritablement à partir de 1951 et au cours d'une série d'engagements au Club Saint-Germain, Pierre Michelot a très souvent évoqué les longues marche nocturne qu'il faisait avec Django après le dernier set au Club Saint-Germain. Django s'est installé à Samois-sur-Seine, une petite commune au bord de Seine, à côté de Fontainebleau, à 60 km de Paris. Et entre le moment où il termine le set au Club Saint-Germain et le premier train du matin pour Bois-le-Roi ou Fontainebleau, qui sont les gares les plus proches de Samois, Django mourra d'ailleurs après un trajet à pied entre Bois-le-Roi et Samois. Il sera pris d'une congestion cérébrale et il décédera dans les heures qui suivront ce malaise. Il dit, Pierre Michelot, on marchait et on parlait de musique, et Django me disait à quel point il était fasciné par ces innovations de Parker, de Bud Powell, etc. Et alors, au moment où Django fait cette musique novatrice, on a l'impression qu'il règle ses jours, qu'il s'installe à Samois-sur-Seine, où il louera plusieurs maisons successivement. Il passe beaucoup de temps avec son épouse et avec son jeune fils, Babic. Il joue au billard, il fait de la musique, du piano avec l'instituteur du village, il va à la pêche à la ligne, ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas musicien par intermittence, pas plus qu'il n'est manouche par intermittence, il reçoit et il traite royalement dans l'auberge locale chez Fernand ses cousins manouches qui viennent le visiter, et puis il s'en va au Club Saint-Germain faire cette musique-là. Donc on a l'impression que, en même temps qu'il produit une musique novatrice, il se met à mener une espèce de vie de père tranquille. Et c'est un véritable... la mort l'enlève au moment où on a une espèce, une nouvelle rencontre et une espèce de renouveau de Django. Et bon, ce renouveau, il est interrompu. Par contre, ce qui n'est pas interrompu, c'est le destin de Django, parce que son destin posthume, mais vous voyez, j'ai déjà parlé longuement de son destin tout court, son destin posthume, c'est aussi quelque chose dont on aurait, d'un point de vue d'ethnologue, beaucoup, beaucoup à dire, parce que la musique connaît la fortune, et le personnage de Django devient très, très vite, lui, une légende. Alors, nous avons entendu successivement St. Louis Blues de... Alors, Django, évidemment, dans toutes les interprétations. St. Louis Blues de 1935 avec le quintet du Yacht Club de France. Improvisation, un solo de Django de 1937. Nagasaki avec le quintet du Yacht Club de France et le chanteur qui était aussi trompettiste, mais là, ce morceau, il ne jouait pas de trompette. Et danseur, Freddy Taylor de 1936. Lao Cotton de 1939 avec les Rex Stewart au cornet et Barney Bigart à la clarinette qui étaient des musiciens de l'orchestre de Duke Ellington alors en tournée à Paris. I Wonder Where Is My Baby Tonight de 1939 enregistré à Londres avec le quintet du Yacht Club de France et Stéphane Grappelli toujours. Flèche d'or de 1952 avec Roger Guérin à la trompette, Hubert Foll au sax alto, Raymond Foll au piano. Barney Spiller et Pierre à la basse et Pierre Le Marchand à la batterie, et puis à l'instant Appel indirect de 1938, Django et le quintet toujours. Voilà, je vous remercie.